La santé, c'est l'affaire de tous.
La santé, c'est l'affaire de tous. Votre émission, notre émission tous ensemble, deux fois par mois, avec le docteur Edmundo Pereira, anesthésiste réanimateur au centre hospitalier de Montauban, notre médecin référent. Désormais, vous allez prendre l'habitude et apprendre à le connaître au fur et à mesure des émissions. C'est une joie encore de te retrouver, Edmundo, pour cette deuxième émission. Et aujourd'hui, à ton micro, nous retrouvons le docteur Jeanne Lajoie, ophtalmologue à la clinique Honoré Cave de Montauban. Et le sujet du jour, rétinopathie diabétique. Nous avons hâte de vous écouter tous les deux sur ce sujet.
Déjà, merci beaucoup, Jeanne, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tu es quelqu'un de très chargé. Merci beaucoup de pouvoir éclairer sur le sujet, qui est un sujet très important. Avant de commencer à te poser des questions, je souhaiterais, si possible, que tu te présentes un peu ton parcours pour qu'on puisse te connaître un peu plus.
Alors, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une première pour moi, ça me fait plaisir. Jeanne Lajoie, donc docteur Lajoie, je suis ophtalmologue à la clinique Honoré Cave à Montauban depuis à peu près 2 ans et demi maintenant. Alors, moi, je suis particulièrement spécialisée dans toutes les maladies de la rétine, essentiellement médicales, et un peu tout ce qui est neuro-ophtalmologie. Donc, c'est vrai que la rétinopathie diabétique, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça touche beaucoup des patients que je vois en consultation. Moi, mes études, je les ai faites à Toulouse, essentiellement. Donc, je suis restée après dans la région de mes études et je suis actuellement à Montauban.
Ah, nickel, voilà. Nickel. C'est parfait. Bon, on a choisi la bonne personne pour parler du bon sujet. Déjà, pour la première question, qu'est-ce que c'est la rétinopathie diabétique?
Alors, donc, en effet, la rétinopathie diabétique, ça peut être une conséquence du diabète. Alors évidemment, le diabète ne fait pas que ça, mais la rétinopathie diabétique est une conséquence assez importante. Alors déjà, qu'est-ce que le diabète? On dit qu'il y a diabète quand le taux de sucre présent dans le sang, donc ce qu'on appelle la glycémie, est supérieur ou égal à 1,26 g par litre à jeun, et ce à deux reprises. Donc ça, c'est la définition du diabète. Alors après, qu'est-ce que touche la rétinopathie diabétique? Donc elle touche la rétine. La rétine, c'est le tissu neurologique qui tapisse le fond de l'œil. Et la rétine, elle a pour rôle de transformer la lumière et les images qui pénètrent dans l'œil en signal nerveux qui ensuite est envoyé au cerveau. Alors, cette rétinopathie diabétique, elle peut être bilatérale, mais elle peut être asymétrique. Et il va s'agir d'une une atteinte des petits vaisseaux de la rétine qui se retrouvent en fait altérés du fait d'un taux de sucre trop élevé et de manière constante dans le sang, donc ce qu'on va appeler l'hyperglycémie constante, ce qui va entraîner une altération et une occlusion de ces petits vaisseaux rétiniens, et ce qui va ensuite du coup provoquer ce qu'on appelle une ischémie rétinienne, c'est-à-dire une mauvaise vascularisation de la rétine.
Ah, ok, nickel. C'est bien. Et c'est bien, simplement pour rappeler à nos auditeurs, parce que c'est vrai que tu as parlé de ces chiffres qui sont très importants, de 1,26 grammes par litre. Et comme je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup l'habitude de travailler avec 1000 mols, ça fait environ effectivement 7 millimoles par litre, que c'est pas très haut. Et par rapport à ça, tu as parlé effectivement de cette mauvaise vascularisation de la rétine, mais pourquoi le diabète touche d'une façon particulière la rétine? Pourquoi ne touche pas les autres parties de la rétine?
Donc, encore une fois, voilà, bien sûr, ça ne touche pas que la rétine, mais c'est vrai que la rétine est souvent précocement touchée parce que les vaisseaux au niveau de ce tissu-là, donc encore une fois, c'est un tissu neurologique, ils sont très fins, ils sont petits et fins. Donc, c'est souvent les premiers touchés par la maladie, tout comme les reins d'ailleurs, ce qu'on appelle les néphropathies. Les deux atteintes sont souvent associées. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on a une atteinte ophtalmo, donc au niveau de la rétine, on va souvent rechercher en parallèle les néphropathies et vice-versa. Alors après, donc je vous ai parlé d'une ischémie rétinienne, c'est-à-dire une mauvaise vascularisation de la rétine qui va être entraînée par ces petits vaisseaux qui sont bouchés. Et dans les stades sévères de rétinopathie diabétique, on va avoir ce qu'on appelle des néovaisseaux pré-rétiniens, donc c'est des néovaisseaux qui normalement ne sont pas présents sur la rétine, qui vont apparaître. Et ça, ces vaisseaux, c'est un mécanisme de défense et de tentative de revascularisation de la rétine. Or, ces vaisseaux, qui sont pathogènes, ils peuvent tirer et tracter sur la rétine, et c'est là où il y a un risque de saignement dans l'œil, ce qu'on appelle les hémorragies intravitréennes, et c'est là également où il y a un risque de décoller la rétine. Et le risque visuel est dans ce cas-là alors majeur. Et rappelons que la rétinopathie diabétique, au début, elle est souvent asymptomatique. Pardon. Elle va être symptomatique quand la rétinopathie diabétique sera malheureusement trop avancée. Et c'est là où on aura, comme je vous l'ai dit, des hémorragies dans l'œil, des décollements de rétine. Alors après, la rétinopathie diabétique, elle peut être aussi accompagnée de ce qu'on appelle un œdème maculaire. Cet œdème maculaire, il va avoir un retentissement visuel direct. Alors pourquoi ? Parce que cet œdème, donc l'œdème c'est de l'eau hein, qui apparaît dans un tissu, il va toucher la macula, et la macula c'est la zone centrale de la vision, de la rétine. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un retentissement visuel direct, et lui il apparaîtra plus tôt dans la maladie.
D'accord. Et c'est très intéressant que tu touches cette histoire de macula, parce qu'effectivement, dans la dernière émission, on avait beaucoup parlé de macula. J'invite les auditeurs qui n'ont pas regardé le programme avant qu'ils puissent le regarder. Et pour continuer un peu sur la rétinopathie diabétique, à quel moment de la maladie diabétique on peut dire qu'on a une rétinopathie diabétique ?
Alors, déjà, il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Ça touche souvent le jeune adulte ou l'enfant et on a une apparition rapide du diabète. C'est-à-dire que les symptômes vont s'installer très rapidement et vont être très parlants. Donc, c'est rare de trouver une rétinopathie diabétique à la découverte du diabète, justement du fait de cette installation rapide de cette maladie. Ça va être complètement différent dans le diabète de type 2, souvent d'ailleurs on appelle ça le diabète sucré, qui lui va toucher les patients plus âgés et qui ont plus de facteurs de risque cardiovasculaires. Donc à la découverte du diabète, il est fréquent qu'en réalité ce diabète il est plus ancien et qu'il a été méconnu pendant plusieurs années ou plusieurs mois, peut-être pas pendant plusieurs années, mais en tout cas pendant plusieurs mois. Et donc il est souvent asymptomatique au début. Donc il n'est pas rare chez eux de découvrir à l'inverse une rétinopathie diabétique dès la découverte du diabète. Alors il faut rappeler que la prévalence du diabète est quand même de 2% environ de la population française et que 90% des patients ont un diabète de type 2. Donc il est quand même plus fréquent de voir des rétinopathies diabétiques chez les diabètes de type 2, mais parce qu'on voit plus finalement en consultation de diabète de type 2 que de diabète de type 1.
D'où effectivement, comme tu as bien dit, de faire très attention. Et dans ces cas-là, on voit que quand même, ça peut être à l'origine d'une altération importante de la rétine. Comment on peut diagnostiquer cette rétinopathie diabétique ?
Alors, il n'y a qu'un seul moyen, bien sûr, c'est d'aller voir l'ophtalmo. Alors, seul l'examen chez l'ophtalmologiste pourra vous dire si vous avez une rétinopathie diabétique ou non. Donc, le médecin va faire un fond d'œil. Donc, ce qu'on appelle un fond d'œil, en fait, c'est une dilatation de la pupille et le médecin va, avec une lentille, faire un examen indirect de votre rétine, donc à la lampe à fente. Alors après, les recommandations récentes de ces dernières années, elles préconisent de faire ce qu'on appelle des rétinophotos du fond d'œil. Donc ce sont en fait des photos de votre fond d'œil. Et en effet, ça c'est bien mieux parce qu'on voit, en fait, on a une meilleure visualisation de la rétine avec une vue d'ensemble. Et on va faire ce qu'on appelle des photos grand champ. Donc on pourra aller très loin dans la rétine périphérique et on aura une bonne vision d'ensemble. Donc c'est vrai que c'est des examens qui sont indispensables pour un rétinologue pour dépister la rétinopathie diabétique. Et ces photos, du coup, elles vont nous permettre de rechercher des signes directs cliniques, donc de rétinopathie diabétique, qui sont les hémorragies. Donc ces hémorragies, elles peuvent être en taches, elles peuvent être ponctiformes. Et puis bien sûr, on va rechercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des néovaisseaux prérétiniens. Donc ces néovaisseaux prérétiniens, ils sont dans les stades très évolués de la pathologie, mais c'est ça qu'il faut s'acharner à rechercher dans les stades assez sévères de ces de rétinopathie diabétique. Alors ensuite, avec ces photos, du coup, on va stadifier la rétinopathie diabétique. Donc quand on n'a pas de néovaisseaux prérétiniens, on sera dans les stades qu'on va appeler non-proliférants, puisqu'on n'aura pas de prolifération de néovaisseaux. Là, on va mettre dans les stades minimes, modérés ou sévères. Et après, les stades plus sévères, quand on a des néovaisseaux, on appellera ça les stades prolifératifs. Alors après, on a une autre façon, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais avant, on faisait beaucoup d'angiographie à la fluorescéine. Donc en fait, c'est un examen qui est plus invasif et qui va permettre de stadifier également la rétinopathie diabétique. Mais on le fait de moins en moins parce que finalement, les photos sont tellement de bonne qualité avec les nouveaux appareils que finalement, on le fait que quand on a des doutes dans les formes modérées à sévères ou quand on a un doute vers une forme proliférative.
D'accord. Est-ce que tu pourras parler de façon un peu plus précise en quoi consiste cette angiographie?
Alors, donc l'angiographie, donc c'est en effet un examen qui est plus invasif car il va nécessiter en fait une injection intraveineuse donc dans les veines d'un produit de contraste qu'on va appeler la fluorescéine. Et ce produit de contraste, eh ben, il peut être assez allergisant chez certains patients. Donc il est courant de faire une petite prévention par des comprimés d'antihistaminiques, donc anti-allergiques, les quelques jours avant cet examen. Une fois qu'on aura fait cette injection intraveineuse, on va prendre des photos du coup en direct en fait du fond d'œil du patient avec un filtre particulier sur l'examen. Donc c'est un examen qui ne fait pas mal. La seule chose, c'est le risque allergique qui est très rare, qui est vraiment extrêmement rare. Mais du coup, il faut le faire dans un milieu hospitalier, voilà, avec des anesthésistes à côté si jamais on a des risques d'allergie sévères. Mais heureusement, ça reste rare. Et donc ensuite, ben, cette angiographie, elle va permettre de mettre en évidence ces fameuses plages de non-vascularisation, ce qu'on appelle l'ischémie rétinienne, ainsi que les néo-vaisseaux pré-rétiniens. Donc c'est un très bon examen, mais voilà, qu'il faut faire dans certains cas.
D'accord. Supposons que bon, nos auditeurs, ils sont allés voir l'ophtalmo, on a fait un fond d'œil, on a découvert qu'ils ont malheureusement une rétinopathie diabétique. Comment ça se passe pour la prise en charge de cette rétinopathie diabétique? Comment elle est faite?
Alors, bah, du coup, ça va dépendre du stade. Donc, clairement, si le patient est bien équilibré et qu'il a un stade de rétinopathie diabétique non proliférante, minime ou modérée, on fera rien. C'est-à-dire que simplement, on va dire au patient, bah, équilibrez bien votre diabète, ça peut rentrer dans l'ordre, et puis on pourra se passer de traitement. Si par contre le patient il est mal équilibré et qu'il arrive à des stades plus sévères, voire prolifératifs, donc avec présence de néo-vaisseaux prérétiniens, c'est là où on va discuter le fameux laser. Donc ce laser, ça s'appelle une panphotocoagulation et il faudra le faire donc dans ces cas sévères.
D'accord. Et normalement, on peut utiliser le laser pour le traitement.
Alors, oui, donc ce laser, en fait, il a pour but de bloquer la rétinopathie diabétique en allant brûler, en fait, la rétine périphérique. Alors, pourquoi on la brûle? Bah, le but, c'est simplement de limiter l'apparition ou le développement, quand ils sont déjà présents, de ces fameux néo-vaisseaux prérétiniens. Alors, le laser, il a ni pour but d'améliorer la vue, ni de la dégrader. Simplement, le patient, il ne ressentira pas de bénéfice à faire du laser, c'est simplement de la prévention pour éviter d'avoir les complications à terme du diabète mal équilibré. Et il faudra d'autant plus envisager ce laser quand on aura des facteurs à risque d'aggravation de rétinopathie diabétique. Et ces facteurs à risque, c'est la grossesse, parce qu'il y a le facteur hormonal. On sait qu'une patiente mal équilibrée sur le plan du diabète qui est enceinte et qui présente déjà une rétinopathie diabétique, va majorer sa rétinopathie diabétique. C'est là où le laser va avoir tout son intérêt. Pareil pour le patient qui va équilibrer de façon trop rapide sa glycémie, donc son taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire que s'il présente une rétinopathie diabétique qui est déjà à un stade sévère, s'il équilibre de façon trop rapide sa glycémie, à ce moment, sans laser au préalable, à ce moment-là, il est à risque de majorer paradoxalement sa rétinopathie diabétique. Donc c'est là où le laser a vraiment son intérêt pour essayer de bloquer l'évolution de la rétinopathie diabétique. Pareil, chez un patient qui se fera opérer de la cataracte, s'il est en stade de rétinopathie diabétique sévère au préalable, ben, il est à risque de majorer, pareil, sa rétinopathie diabétique. Donc vraiment là, le laser a tout son intérêt et garde encore toute sa place. Alors après, il faut bien sûr expliquer aux patients que sans un équilibre du diabète, on n'arrivera jamais à une bonne prise en charge. C'est-à-dire qu'on aura beau faire le laser, si le patient reste à des valeurs glycémiques très élevées sur des années et des années, on aura quand même malgré tout une baisse d'acuité visuelle du fait de l'œdème maculaire et du fait d'une poursuite de la prolifération de ces nouveaux vaisseaux rétiniens. L'objectif pour un patient diabétique, pour garder une rétine saine, c'est d'avoir ce qu'on appelle une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. L'hémoglobine glyquée, c'est un prélèvement sanguin qu'on fait à peu près tous les 3 mois et qui va révéler l'équilibre global du diabète sur les derniers mois. Alors après, l'autre traitement, donc je vous ai parlé tout à l'heure des œdèmes maculaires, l'autre traitement, ce sont des injections intravitréennes. Donc ça, c'est un produit qu'on injecte dans l'œil et qui va permettre d'assécher en fait l'œdème maculaire. Alors après, bien sûr, le patient diabétique, notamment de type 2, ben, parfois il a une tension artérielle traitée à côté. Il faudra bien s'assurer que la tension artérielle soit bien contrôlée parce que ça sera un facteur aussi d'aggravation de tout ce qui est œdème maculaire. Et puis après, dans les stades compliqués, c'est là où on aura la chirurgie qui va rentrer en compte. Dans les cas sévères, tout ce qui est hémorragie donc intraoculaire, ce qu'on appelle les hémorragies de vitrée ou les décollements de rétine. Là, le chirurgien réalisera ce qu'on appelle une vitrectomie et ainsi qu'un laser, mais du coup péropératoire. Ça, c'est vraiment dans les cas sévères et un peu ultimes de la pathologie, quoi. Voilà.
D'accord. Tu as bien expliqué effectivement l'indication de laser et des injections intravitriennes. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que quelqu'un qui bénéficie de ce type de traitement, est-ce que ça fait mal?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que le laser, bon, c'est pas un bloc opératoire, hein, ça se fait en consultation. L'ophtalmologiste, il va poser une lentille sur l'œil après avoir anesthésié donc localement l'œil avec des gouttes. Et après, là, il va réaliser ses impacts. Et c'est ces impacts qui peuvent un peu chauffer. Donc, c'est vrai qu'on fait pas toute la pente, on fait pas toute la pente photocoagulation en une seule fois. Parce que ça serait trop désagréable et de toute façon, on le fait sur plusieurs séances. Donc, souvent, on fait 4 à 6 séances de 500 impacts chacune pour arriver à un total de 2000 à 3000 impacts. Mais après, le soir même, le patient, il reprend sa vie habituelle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'anesthésie générale ou loco-régionale. Voilà, les suites sont très simples. Pour les injections intravitraines, c'est un peu différent. Là, par contre, on le fait dans une petite salle stérile, après avoir bien désinfecté l'œil avec ce qu'on appelle la bétadine, parce qu'il y a un risque infectieux, clairement, dans ces injections intravitraines, surtout chez un patient diabétique. Alors après, l'infection, elle est très, très rare pour ce type d'intervention, mais il faut bien, voilà, bien désinfecter à la bétadine. Alors après, l'injection en elle-même, elle est rarement douloureuse. C'est plutôt justement cette bétadine qui peut piquer un peu, qui peut brûler un peu, et c'est pour ça qu'il faut absolument bien rincer au sérum physiologique stérile après l'injection et bien mettre des lubrifiants pour justement faire passer cette sensation désagréable de grains de sable que certains patients décrivent après les injections.
Je pense que nos auditeurs, ils craignent le plus, je pense, que c'est perdre la vision. Est-ce qu'il y a un risque d'être aveugle chez les patients plus importants, ou est-ce qu'il y a un risque majeur chez un patient qui a une rétinopathie diabétique?
Alors, eh bien, oui, malheureusement, il faut bien rappeler que la rétinopathie diabétique sévère, hein, bien sûr, j'entends sévère, qui résulte d'un diabète déséquilibré sur plusieurs années, c'est une des 5 principales causes de cécité en Europe. Donc, ben, son traitement et sa prévention, ça va exiger une étroite collaboration entre l'ophtalmo, le diabétologue, le médecin généraliste et bien sûr le patient. Le patient, il doit être acteur de sa prise en charge. Sans ça, on n'arrivera pas. Alors après, le risque visuel avec une rétinopathie diabétique, encore une fois, c'est dans les diabètes très déséquilibrés sur plusieurs années. À l'inverse, il faut bien rassurer le patient quand même, et ça va le motiver également, en lui disant que s'il est bien équilibré, et même s'il présente un diabète depuis 20 ans, s'il a toujours été bien équilibré, non, il n'aura pas de souci avec sa rétinopathie diabétique. Voilà. Donc c'est comme ça aussi qu'on va le motiver, en lui montrant qu'avec un bon équilibre du diabète, il n'y aura pas de souci. Alors, moi, je trouve, c'est vrai qu'on voit encore trop de patients qui ne consultent pas l'ophtalmologiste avec un diabète déséquilibré. Et dans certains cas, malheureusement, il est trop tard pour agir au moment où ils consultent. Donc, c'est vrai que c'est dommage. C'est là où vraiment la prévention a toute son importance. Et notamment, le rôle du médecin traitant est primordial, à mon sens, parce qu'il faut informer le patient de ce risque visuel et dire, à partir du moment où on est diabétique, il faut consulter un ophtalmo régulièrement. Après, en fonction du stade de la rétinopathie diabétique, mais il faut consulter un ophtalmo pour dépister la rétinopathie diabétique. Surtout quand on a des facteurs aggravants comme la grossesse, l'adolescence, les chirurgies de cataracte, etc. Quoi. Après, bien sûr, encore une fois, sans l'équilibre du diabète, on n'aura pas une bonne prise en charge.
Sévère, Jeanne, qui tu nous as beaucoup, beaucoup éclairé avec ces questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter par rapport les points que tu viens d'aborder ou est-ce que tu m'autorises à passer aux questions
C'est bon,
que tu fais par la population?
Oui, moi, c'est bon. Ouais.
D'accord. Alors, peut-être qu'il y a des questions qui vont se répéter un peu par rapport aux choses dites. Après, bon, tu feras une réponse plus courte. La première question qui a été posée, tu as déjà beaucoup parlé de ça, mais bon, je veux la poser à nouveau. La rétinopathie diabétique est très répandue?
Très répandue. C'est vrai que maintenant, on arrive quand même à bien équilibrer le diabète. Donc, on a quand même des armes thérapeutiques qui sont de plus en plus importantes. Donc, on en voit quand même de moins en moins. Mais oui, ça reste quand même, malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, ça reste une des causes de cécité importantes en Europe. Et on en discutait tout à l'heure, mais c'est vrai que les chiffres retrouvent parfois 2 individus sur 5 000 patients diabétiques qui peuvent être aveugles à terme. Donc oui, ça reste pas négligeable, et d'où l'intérêt de la prévention.
La deuxième question, est-ce que le risque d'une rétinopathie diabétique est le même chez les hommes et les femmes?
Alors moi, à mon sens, il n'y a pas de facteur, le sexe n'est pas un facteur aggravant ou protecteur. Après, le critère majeur, c'est l'équilibre du diabète, l'ancienneté du diabète et le taux de l'hémoglobine glyquée. Voilà, donc après, j'aurais tendance à dire que oui, mais il faut prendre en fait tout le patient en globalité. C'est-à-dire que si l'homme a plus de facteurs de risque cardiovasculaire, oui, souvent le diabète est plus sévère. Donc enfin voilà, il y a plusieurs... Il y a plusieurs choses à prendre en compte.
De toute façon, c'est connu que les hommes sont moins sages que les femmes. Ça, voilà. C'est prouvé. Hein. À la troisième question, comment on peut évaluer la réponse d'une rétinopathie diabétique au traitement? Tu as parlé du laser et injection intravitraine. Comment on peut évaluer la réponse à un de ces traitements ou aux 2 traitements qui ont été proposés?
Alors, pour les injections intravitraines, donc ça a pour but d'assécher l'œdème, comme je vous disais, et l'œdème maculaire a un retentissement direct sur l'acuité visuelle. Donc déjà, la première chose pour évaluer la réponse, ça va être l'acuité visuelle. Donc en fait, à chaque consultation après les injections, on va évaluer l'acuité visuelle. Si on voit que l'acuité visuelle remonte, déjà, ça veut dire que la réponse thérapeutique, elle est satisfaisante. Après, il va y avoir la réponse anatomique. Là, on va surveiller le patient lors des consultations avec ce qu'on appelle l'OCT. L'OCT, c'est comme un petit scanner de la rétine. Et là, on va regarder directement si l'œdème maculaire diminue sur le plan anatomique. Et après, là, c'est la balance. C'est-à-dire que si on voit que l'acuité visuelle stagne ainsi que l'aspect anatomique stagne, ça veut dire que les injections, la réponse thérapeutique est à son maximum. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'intérêt à refaire des injections. Et on sera au maximum de l'efficacité. Après, le laser, c'est complètement différent parce que, comme je vous disais, il n'a pas de retentissement visuel direct. Donc, en fait, le patient, il ne va pas ressentir d'amélioration. C'est simplement de la prévention pour éviter d'avoir des complications ophtalmo liées au diabète. Donc là, seul l'ophtalmo, à travers son fond d'œil, saura dire si son laser est complet ou pas.
C'est vrai que c'est tellement bien de parler avec toi que le temps passe très vite. On voit pas le passé. On a malheureusement que 5 minutes. Mais je vais continuer avec les questions. Est-ce que quelqu'un qui a une rétinopathie diabétique, il peut augmenter ses possibilités de décollement de rétine et de glaucome? J'ai mélangé deux questions, hein, mais voilà.
Ouais. Alors, j'aurais tendance à dire oui, mais attention, ce n'est pas le même type de décollement de rétine ni de glaucome que l'on voit dans la population générale et ceux dont on entend parler. C'est-à-dire que le décollement de rétine, ça sera ce qu'on appelle un décollement de rétine tractionnel. C'est-à-dire que c'est ces fameux néovaisseaux qui, dans les stades, encore une fois, ultimes, hein, tardifs, vont tirer sur la rétine et à ce moment-là, vont la faire décoller. Ça ne sera pas une déchirure qui, elle... Après, il faudrait rentrer dans la physiopathologie des autres types de décollement de rétine, mais ça ne sera pas le même type de décollement de rétine. Mais oui, la rétinopathie diabétique dans ces stades tardifs peut créer des décollements de rétine. Pareil pour les glaucomes, c'est dans les stades aussi ultimes de la maladie. Normalement, on ne devrait plus en voir aujourd'hui, mais ça va créer ce qu'on appelle des glaucomes néovasculaires. Donc là, c'est toujours ces fameux petits néovaisseaux, pour schématiser, qui vont boucher en fait les endroits où s'évacue le liquide de l'œil. Et là, la tension de l'œil va monter et du coup, va créer des hypertonies. Donc c'est-à-dire beaucoup de tension dans l'œil très sévère et vont abîmer le nerf optique.
On a tellement de questions avec peu de temps. Je sais qu'Ifare FM ne va pas me tirer les oreilles si je dépasse un peu. Alors, la dernière question. Un patient diabétique pose la question, combien de fois par an je dois faire un fond d'œil?
Alors ça, ben, du coup, ça va dépendre du stade de sa rétinopathie diabétique et de son équilibre. Alors, si le patient n'a rien, le patient parfait, hémoglobine glycée inférieure à 7%, pas de rétinopathie diabétique, ben là, contrôle une fois par an, ça sera largement suffisant. Si par contre, on commence à avoir un petit peu d'hémorragie, c'est-à-dire au stade modéré, il faudra au moins le faire tous les 6 mois. Et par contre, là, quand on arrive au stade sévère prolifératif, alors là, après, il faut faire cas par cas parce que il faudra envisager de faire du laser. Souvent, il y a un œdème maculaire associé, donc on fait des injections répétées. Et là, souvent, on est amené à voir le patient à peu près tous les 4 mois. Ça reste la moyenne.
Bon, Jeanne, c'était très, 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 très intéressant. Je pense que nos auditeurs sortent de cette émission en connaissant beaucoup mieux la rétinopathie diabétique, moi aussi. Est-ce que tu as un message final à délivrer à nos auditeurs, des mots-clés pour finaliser cette émission qui était très, 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 très sympa et très intéressante?
Alors, vraiment, le message en tant que ophtalmologue, ce que je voudrais faire passer, c'est vraiment consulter même un diabétique bien équilibré. Je lui dirais quand même de consulter de temps en temps l'ophtalmo, parce qu'il y a des choses à vérifier et que c'est trop dommage chez un patient qui n'est pas équilibré d'attendre d'avoir un retentissement visuel de sa pathologie pour agir alors qu'on aurait pu faire des choses avant.
Voilà. Nickel. Bon, un grand merci pour ton temps et tes explications.
Merci.
Je passe à l'antenne pour finaliser l'émission. Là. Samuel, à toi.
Merci Edmundo et merci au docteur Lajoie pour cette nouvelle émission sur le thème de la rétinopathie diabétique. Vous pouvez retrouver cette émission pour la réécouter dans son entier en podcast, en replay sur farfm.com. La santé, c'est l'affaire de tous. Reviens très bientôt.